Au début donc de cet enseignement, je voudrais vous reporter plus de 870 ans avant Jésus-Christ. Alors je vous fais faire un saut dans le temps. C'est un peu comme dans le film Les Visiteurs. Tout d'un coup, on fait pas quelques centaines d'années, on fait presque 2000 ans. Alors, vers l'an 870 avant Jésus-Christ, nous savons, la Bible nous dit, qu'il y avait une très grande sécheresse en Israël, depuis plus de 3 ans. Et ce symbole de la sécheresse est très important, parce que nous allons le retrouver à travers toute la dynamique de la Bible. Nous allons le retrouver à travers l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, nous vivons, vous le savez bien, une immense sécheresse. Une sécheresse des cœurs, une sécheresse des relations. Donc, comme à l'époque d'Élie, une prière pourrait monter de notre cœur. Jusqu'à quand, Seigneur, cela va-t-il durer? Et alors, nous nous reportons au très très beau passage du premier livre des Rois. Alors bien sûr, on ne va pas faire tout le cycle d'Élie parce qu'il faudrait une retraite au moins une semaine. Mais on va picorer par-ci, par-là. Et je commence par ce texte parce que vous allez voir dans quel sens. Après l'avoir creusé, j'ai vraiment senti que nous sommes là au cœur du Carmel. Alors ce texte, vous pourrez le reprendre dans votre cœur, le relire, c'est Premier Livre des Rois, chapitre 18, versets 41 à 46. C'est très court. Et c'est un passage très important parce qu'il va nous donner tout le temps, qui va nous ramasser en quelque sorte la vie d'Élie. Ce passage va nous enraciner dans ce qui a fait vraiment, jour après jour, la vie du prophète Élie. Alors je le lis tout simplement d'abord, pour que ce texte nous puissions le goûter et le sentir un petit peu, et puis ensuite essayer de voir la lumière que ce texte dégage. Alors, n'oubliez pas le titre de la conférence, bien sûr, Élie, l'esprit d'Élie au Carmel. L'esprit d'Élie en tant que le Carmel, c'est l'esprit d'Élie. Il y a une relation, on va le voir, très profonde entre le Carmel et Élie. Ça, c'est mystérieux. Comment se fait-il que celui qui est notre père au Carmel soit un prophète de l'Ancien Testament? Ça, ne me le demandez pas. C'est le secret de Dieu. Le Carmel n'a pas de fondateur au sens strict comme les Dominicains en Saint-Dominique, les Franciscains en Saint-François et bon, Bénédictins en Saint-Benoît. Nous n'avons pas au sens strict, bien sûr, on dirait à Thérèse d'Avila. Alors c'est vrai qu'elle a une carrure, si j'ose dire, de fondatrice, mais elle n'est que, c'est vrai, au sens vrai, réformatrice, grande réformatrice, immense. Mais le Carmel, comme elle se tue à le dire, d'ailleurs, ne commence pas avec elle. Et donc ça renvoie aux sources du Carmel, on va le voir. Les sources du Carmel, c'est le prophète Élie et la Vierge Marie. Et c'est deux personnes mystérieuses. Alors, vous voyez, dès qu'on touche le Carmel, il y a quelque chose qui nous qu'on ne saisit pas tout de suite. Et on va le voir, le Carmel, c'est pas quelque chose... On peut dire, ah oui, le Carmel, oui, c'est comme ça, j'ai compris. Le Carmel est très mystérieux, très caché, très, très insaisissable. Parce qu'il est... jusqu'à la moelle biblique. Et donc, tout ce qui est biblique, évidemment, demande une profondeur, un silence. On ne saisit pas l'esprit du Carmel comme ça, après avoir lu même la petite Thérèse, ou Sainte Thérèse d'Avila, ou Saint Jean de la Croix. On peut saisir quelque chose, l'esprit du Carmel. Mais le Carmel, pour le saisir, il faut revenir aux sources. C'est pour ça que c'est passionnant pour nous, durant ces deux rencontres, de vraiment aller aux sources du Carmel. Alors là, nous y sommes, et je vous lis ce texte. Alors, il y a le rapport entre Élie et Akab. Bon, je ne m'y arrête pas. Akab, c'est le roi de l'époque, alors qui, si vous avez déjà lu les textes, il a toujours des relations avec tout le problème des idoles. Bon, il est marié à Jézabel. Bon, alors, c'est tout. Alors...